La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Alléluia. Il y a deux mardis de cela, vous savez que nous sommes dans la série d'enseignements sur la prière. Amen. J'ai expliqué quelque chose brièvement à la fin de ma dernière intervention. Et j'ai montré ici l'image du tabernacle. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Tout à l'heure, vous allez revoir cela. Je vous expliquais que dans la prière, lorsqu'on prie, ou lorsqu'on adore, lorsqu'on chante, lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a différentes étapes. Et ces étapes-là, Dieu les décrit au travers de l'image du tabernacle qu'on verra tout à l'heure. Amen. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, supposons là comme ça, je suis en train de louer. On entend la musique, j'entends la musique. La prière, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut prier en esprit. C'est ça, non? Il faut prier en esprit. Ça suppose quoi? Que il faut louer aussi en esprit. Que la chair loue, la chair, l'âme, mais je dois aller en esprit. Lorsque j'atteins l'esprit, c'est en cela ce que Jésus dit, entrez en vous-même. Amen. Lorsqu'il dit, si tu veux prier, retire-toi seul. Le seul dont il est question pour prier, même si vous êtes en groupe avec des centaines, des milliers de personnes, c'est de pouvoir, malgré le nombre de personnes qu'il y a avec lesquelles vous êtes en train de prier, c'est de pouvoir arriver jusqu'à, dans votre prière, être connecté seulement à votre esprit. Alors, comment ça se passe? La véritable adoration, par exemple, c'est l'adoration en esprit, en vérité. L'esprit, quand il adore, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il retient? Ce qui intéresse l'esprit, ce sont les paroles. Ce sont les paroles. Ce qui intéresse la chair, quand vous rentrez en adoration, en louange, en adoration, la chair est intéressée par le rythme. Fais-moi. Bon, ok. Quand il a fait comme ça, vous savez, ça n'intéresse pas l'esprit. Mais ça intéresse la chair. Quand la chair, attends. Ce n'est pas une affaire des païens ou des chrétiens. Quand le rythme est comme ça, même si c'est un chant païen même là, ta chair seule est touchée. Elle commence. Elle veut commencer à bouger, ok? Maintenant, quand Dieu dit de prier en esprit, l'esprit que c'est pas mauvais parce que de toute façon, pour aller à la prière, c'est ta chair que tu déplaces. Donc, si tu veux atteindre l'esprit, tu dois d'abord passer par la chair. Donc, le problème, c'est pas gênant que la chair réagisse. Mais ce que Dieu te dit, c'est de concentrer ta prière et ton adoration à ce niveau. C'est-à-dire, si on fait la louange, on continue. Voilà, ok. On peut mettre là-dessus, on peut même trouver des rythmes de voix en chantant qui donnent envie de danser. Vous pouvez être dans un programme, louer Dieu avec ce genre de choses-là. Et puis Dieu va dire, vous ne l'avez pas adoré. Vous ne l'avez même pas célébré. Parce que tu t'es contenté seulement. Tout cela. On dit, mon frère, c'est chaud ici hier. Et puis, ce n'est pas seulement le rythme, même il y a des paroles qui vont à ça. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Salut. C'est même pas trop la parole qui intéresse les gens, mais c'est la façon dont on prononce loué, éloué, loué, 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 loué. Tout ça là, c'est la chair. Tu n'es pas encore entré le moment où Dieu va t'écouter. Mais quelquefois, il faut blaguer un peu la chair pour la disposer. Amen. Maintenant, l'âme. Donc, quand on a quitté la chair, c'est le parvis. Quand on va présenter l'image, la chair, c'est le parvis. Quand Dieu dit de prier en esprit, il dit autrement, ne t'arrête pas dans une prière. Voilà. Bon, la chair, avant l'autel des holocaustes, ça c'est le parvis. Maintenant, l'âme. L'âme, quand vous rentrez en adoration, l'âme est touchée par les mélodies. Donne-moi une belle mélodie, quand on a envie, quand on écoute, on a envie de pleurer, on a envie de... Les paroles de cette mélodie, on les chante souvent. Ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. On le dit dans beaucoup de chants, n'est-ce pas? Tu es assis sur le trône. On le dit dans beaucoup de chants. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, ce chant-là nous entraîne un peu plus? Ce n'est pas d'abord les paroles. C'est les paroles qui sont posées sur la mélodie. Là. La mélodie est entraînante. Oh, on reprend. Doucement. On va chanter tous ensemble. Chantons ensemble.
Dieu.
Pareil vous donne envie d'adorer. Mais si, lorsque vous rentrez en vous-même pour chercher la face de Dieu, vous vous contentez seulement de l'aspect mélodieux du chant. C'est émouvant, ça te donne envie de pleurer. Quand l'âme est touchée, l'âme veut pleurer. Tout ça. Mais c'est même pas encore ça l'adoration. Ça, c'est le cheminement. Dans la partie du parvis, de l'enseignement sur le parvis, en ce moment-là, dans votre prière, vous êtes à la cuve des reins. C'est en ce moment-là que vous amenez votre âme devant l'Éternel. Mais la prière en esprit commence lorsque vous êtes dans le lieu saint. Et comment ça va se passer? Pendant qu'on est en train de chanter, oh Éternel Dieu. Maintenant, un moment, on va reprendre le chant. Oubliez la mélodie. La mélodie, vous allez continuer à chanter. Et puis, quand vous rentrez dans le lieu saint, dans votre moment de prière, d'adoration, à un moment donné, c'est comme si vous oubliez la mélodie. Et puis les paroles commencent à avoir un poids. Là, vous êtes dans la prière en esprit. On reprend maintenant. Maintenant, commencez à penser. Oh Éternel, Dieu. L'esprit commence à réfléchir. Le Dieu de l'univers. Ça veut dire, tu vois les étoiles. Et puis c'est lui qui a tout créé. Quand l'esprit arrive à ce niveau, alléluia. Alors là, il voit le Dieu de l'univers. Or, quand vous priez au niveau de l'âme, l'âme ne s'occupe même pas des paroles. Il prononce les paroles parce que c'est le chant.
Oh Éternel, Dieu de l'univers, tu règnes à jamais, honneur et gloire.
Mais ce qu'il a dit, il ne sait même pas. Mais quand vous rentrez dans le lieu saint de l'adoration et de la prière, en ce moment-là, chaque parole est pour vous un trésor. Vous dites, waouh, Dieu de l'univers, assis sur le trône, ça veut dire c'est lui qui décide, c'est lui qui est le roi. Donc en ce moment-là, la mélodie est toujours là, mais tu n'es plus dans la mélodie. Tu es là en train d'admirer les paroles de ce que tu es en train de dire. Spirituellement parlant, c'est là que tu es entré dans le lieu saint. Alléluia. Et cette transition-là est valable dans vos moments de prière, dans vos moments d'adoration. C'est là qu'on prie. Amen. On reprend encore. Et maintenant, tout en chantant la mélodie, oublie un peu la mélodie. Et puis, sentez un peu la profondeur et la puissance de chaque parole de ce chant.
Dieu de l'univers, digne de louange.
Jésus, il règne à jamais. Il règne à jamais.
Il règne à jamais.
Maintenant, on va méditer, on va le prendre seulement. Il règne à jamais pour méditer. Il règne à jamais. Toi, Seigneur, qui règne, ah, mon Dieu, tu règnes à jamais.
Tu règnes à jamais.
Ah, tu règnes à jamais. C'est toi, Seigneur, qui es le roi. Ton règne n'a pas de fin. Tu règnes à jamais. Jamais. Tu réfléchis au sens de régner, ça veut dire quoi?
Jamais.
Ça veut dire quoi? Il règne à jamais. Ça signifie quoi concrètement?
Il règne à jamais.
Quand tu es en train de dire il règne à jamais, tu dis simplement que c'est lui qui est le roi.
Il règne à jamais.
Nous disons que c'est lui donc qui décide toutes choses.
Il règne à jamais.
Ce ne sont ni les circonstances, ni nous-mêmes. Rien de ce monde qui règne, c'est lui. Et c'est ce que nous sommes en train de dire.
Jamais.
Et c'est ce que notre esprit est en train de confesser. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Merci Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Pendant qu'on adorait comme ça, qui voyait ce qu'il adorait? Qui sentait l'adoration? Le nom, le règne? Non, non, sincèrement. Amen. Digne de louange, honneur et gloire. Honneur et gloire. Alors, quand tu arrives en esprit, chaque parole a un poids. Tu ne dis pas les mots et tu n'es pas pressé de finir le chant. Tu prends le temps de digérer chaque chose. Et chaque chose a un sens pour toi. Et c'est là, dans ce lieu saint, dans l'esprit, que Dieu parle, que tu vois Dieu, que tu touches Dieu. Il y a plusieurs manières de toucher Dieu. Mais il y a une façon, lorsque vous le touchez, Dieu dit que vous l'avez touché. Rappelez-vous l'histoire de cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Jésus marchait. La Bible dit que Jésus était pressé par une foule nombreuse, n'est-ce pas? Et il y a une femme qui est venue, elle dit, si seulement je le touche, je serai guéri. Alors moi je vous ai demandé souvent dans mes prédications, mais
La femme ne voyait-elle pas avec ses yeux physiques les hommes et les femmes, la foule autour de Jésus, en train de le toucher? Et est-ce qu'elle ne constatait pas que ceux qui étaient en train de le toucher en grand nombre n'étaient pas particulièrement visités? Si, rien ne se passait. Mais elle a vu Jésus d'une autre façon. Alléluia. Regardez tout à l'heure, pendant qu'on était en train de dire, il règne à jamais, pendant qu'on le célébrait. Quand j'ai demandé tout à l'heure, acclamons le Seigneur. Ceux qui ont touché l'adoration tout à l'heure, véritable, dans leur esprit, acclamer le Seigneur, quand vous avez battu les mains, ça avait un autre sens. C'est vraiment comme si dans votre esprit, vous voyez un grand Dieu. Et puis, devant lui, vous le voyez là, dans votre esprit. Et puis, tu fais comme ça. Tu acclames. Ok? Il y a acclamé dans le parvis. Il y a acclamé dans l'âme. Et il y a acclamé dans le lieu saint. Ça fait une différence totale dans la manière dont vous vous approchez de Dieu. Les mêmes prières, les mêmes actions peuvent être répétées à ces trois niveaux. Mais il y a une différence. Il y avait donc une foule qui était en train de toucher Jésus. Quand la femme s'est infiltrée et qu'elle a simplement touché, Jésus a dit ceci, quelqu'un m'a touché. Autrement dit, toute la foule qui était en train de le presser ne le touchait pas. Les hommes le touchaient physiquement, mais Jésus n'a pas dit, quelqu'un m'a touché. De quoi parlait-il? Nous pouvons tous être là en train de prier. Et le Seigneur se lève aussi et lui dit, quelqu'un m'a prié. Les personnes vont venir, nous passer à face de nous, tous sont des prières. Et non. Jésus dit qu'on le prie. Jésus déclare qu'on le touche. Lorsqu'on le touche en esprit, pas physiquement. La foule qui était autour de Jésus touchait Jésus physiquement. C'était là, voilà l'homme célèbre. C'est Jésus là. Allons, on va le voir. Allons, on va le voir. Cette femme a regardé, elle dit, lorsqu'elle a vu, elle dit, mais c'est Dieu qui est là. Vous comprenez? Donc, oh, que Dieu nous aide. L'esprit qui est en elle ne regardait plus par les yeux naturels. Les yeux naturels vont juger la taille de Jésus, la forme de Jésus. Les yeux naturels vont juger la célébrité de Jésus, la notoriété de Jésus. Donc, on veut le toucher parce qu'il est célèbre. Mais la dame, elle a regardé autre chose. Elle voyait Dieu. Elle a compris qu'elle n'avait même pas besoin de parler avec lui. Elle dit, si seulement je puis le toucher. Donc, il y a des dizaines de personnes qui touchent Jésus. Mais elle fait faufile sa main à l'intérieur. Et dès qu'elle touche, Jésus n'a pas dit, quelqu'un a été guéri d'abord. Il a juste dit, quelqu'un m'a touché. Tous les apôtres qui étaient autour ont pensé que Jésus devenait bizarre. Ils ont dit, mais maître, la foule te presse. Tout le monde te touche. Il dit non. Car j'ai senti une force sortir de moi. C'est pas que Jésus marchait au milieu d'une foule, simplement. La foule était là à cause de Jésus. Les hommes et les femmes le touchaient parce que c'était Jésus. Mais leur touche était selon la chair. Ou selon les émotions. Parce que peut-être qu'il y a des femmes au milieu qui étaient un peu amoureuses, je ne sais pas, peut-être de Jésus. Oui, c'est pareil. Quand certaines personnes viennent rencontrer les hommes de Dieu, comment vont-ils rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous? Vous partez le rencontrer avec quel esprit? J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Pasteur Sanogo. Tu connais Pasteur Sanogo? Ah, donc, ils jugent Pasteur Sanogo dans l'esprit de la chair. Ils vont venir voir, ah, c'est un pasteur. Et, Abidjan, ici, tout le monde le connaît. Donc, si je le rencontre, tu viens me voir à la chair. Parce que tu as entendu mon nom, tu veux me parler. Dieu ne va rien faire. Mais cette femme-là, elle a touché avec un autre esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la clé de la prière. C'est une des clés. L'intimité de Dieu, là. C'est arriver dans cet endroit, arriver dans cette dimension, et c'est là que vous priez. Parce que c'est en ce moment-là que Dieu va dire, quelqu'un m'a prié. C'est en ce moment-là que Dieu va dire, j'ai senti une force depuis qu'il est au ciel, qui quitte le ciel pour descendre. En dehors de cela, si vous vous approchez de Jésus selon la chair, rien ne va se passer. On peut être là, on met la musique, tout le monde est là. Et puis personne n'est en train de louer Dieu. C'est pourquoi ne vous contentez pas les églises, les communautés d'ambiance seulement. Mon frère, ça c'est pour réchauffer ta chair. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. La Bible dit de célébrer l'Éternel avec des pas de danse. Ça veut dire pendant que la louange vient. Donc la musique commence. Oh Dieu, jamais je ne tourne. Donc la chair commence à danser. Ça, c'est bon. Oh Dieu, jamais. Pendant que tu danses, à un moment donné, ton âme commence à prendre le chant. Je ne tout. Et puis, à un moment donné, pendant que tu es en train de danser, tu as laissé ton corps en train de bouger. Tu as laissé ton âme. Et puis, tu commences à méditer sur les paroles. Donc, pendant que tes pieds sont en train de sauter, oh Dieu, jamais, moi, je ne tout. Pendant que les gens dansent, toi, tu t'occupes de quelqu'un en ce moment-là. Et pendant que tu es en train de sauter, et c'est là qu'on dit que tu es en train de louer Dieu avec des pas de danse. L'autre danse d'avant, là, où on dit, tu entends la musique, tiké, ké, 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 oh Dieu, j'aime. Non, c'est la guitare qui te fait danser, c'est le piano, c'est le. Dieu n'est pas dans ta louange. Tu ne l'as pas touché. Donc, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, que je veux danser, que je veux célébrer, je ne dois jamais me contenter d'une louange qui reste au niveau de la chair. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne touche pas Dieu. Rien ne va descendre sur toi. Quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ce n'est pas dans les louanges comme ça qu'il vient. Il y en a qui font des veillées sur ça là. Mon frère, mais on va faire le show. Tout le monde est là. Enlevez les chaises. Donc tout le monde est là maintenant. Les phases, tout ça là. Dieu n'est pas là-dedans. Ce qu'ils disent même, ça ne les intéresse même pas. Tout ce qui intéresse, c'est le bruit là. Qui a la guitare? C'est cette guitare là qu'ils entendent. C'est la batterie qu'ils entendent. Et ils restent à ce niveau de danse. Ça ne produit rien. Tiens voisin, est-ce que tu saisis la chose? Alléluia! Alléluia! Je n'ai pas dit de ne pas danser, il faut danser. La Bible dit louer l'Éternel avec des pas de danse. Ça, c'est la louange, tu as un esprit. Chaque parole a un sens. Et quand vous vous mettez à adorer, à louer le Seigneur comme ça, les chants, c'est là qu'on écrit des chants. C'est qu'on écrit des chants qui viennent du ciel. C'est quand vous rentrez en esprit, parce qu'à un moment donné, toi-même, tu es là, et puis quand ton esprit commence à analyser les paroles que tu prononces, tu te rends compte que tu dis rien de bon même. Et puis toi-même, tu achètes les paroles, parce qu'il y a des chants, vous chantez, c'est juste pour la rythmique avec laquelle les paroles arrivent. Tu n'amènes jamais un chant comme ça dans l'église. Il y a des chants que les gens ont composés, il n'y a rien dedans. On ne dit rien à Dieu. C'est juste, voilà un chant, on va danser à l'église. Des chants comme ça, n'amenez pas ça dans la maison de Dieu. Ce sont des chants qui ont été composés à partir du parvis. Ça veut dire, des chrétiens charnels qui ont envie de se rappeler les bons vieux temps du monde, leur moment, ont inventé des chants. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ça n'approche même pas de Dieu. Quand vous vous approchez de Dieu, ne vous approchez pas vainement. Il faut vous approcher dans le sens réel de le toucher, de le rencontrer. C'est pas compliqué. Tout à l'heure, on essaie, est-ce que ça marche pas? Ça marchait, non? C'est juste un peu de concentration. Amen. Alléluia. Et c'est valable en tout. Quand je m'apprête, je vais prêcher. Celui avec qui c'est très manifeste, vous avez parlé le pasteur Ivan. Vous savez pourquoi il prend beaucoup de temps d'adoration? En fait, c'est parce qu'il sait qu'il doit jamais prêcher tant que dans sa communion, il est encore au parvis. C'est-à-dire, on vient, homme de Dieu vient prêcher. En ce moment-là, quand tu vas prêcher ou tu vas parler aux gens au niveau du parvis, tu sens les intérêts de la chair en avance. C'est-à-dire, il faut que les gens apprécient ma prédication. Quand tu commences à penser, est-ce que je vais bien parler même? C'est pareil aussi quand tu vas chanter. Est-ce que ma voix est bien huilée? Alors, si je rentre dans la présence de Dieu et que je sens que c'est juste un intérêt de ma chair qui est en jeu. J'ai envie d'ambiancer, j'ai envie de faire le show. Ça va vous arriver tout le temps. Ça va vous arriver, ça arrive à tout le monde. Moi-même, quand j'arrive au début, si je n'ai pas pris le culte en adoration à la maison avant d'arriver à l'église, quand j'arrive, je prends le temps de traverser le parvis. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne suis pas très concentré sur les paroles. Mais c'est juste les mélodies qui m'entraînent. Mais c'est juste le départ, c'est pas mauvais. Mais je ne peux pas me contenter de cela. Je sais que quand je suis entré dans l'adoration, je dois aller jusqu'au lieu saint. C'est là que je pourrais vraiment le toucher. Amen. Commencer par la chair ou par le parvis, c'est pas mauvais. Parce que de toute façon, ta chair est avec toi. Que la mélodie t'entraîne, c'est aussi très bon. C'est pas mauvais. Mais toi, demeurer au niveau de la mélodie, de l'aspect mélodique seulement du chant, c'est ce qui va te poser un problème. Amen. Amen. C'est pareil dans la prédication, c'est pareil en toutes choses. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est comme ça que j'introduis mon message. Avec la louange. À ce niveau-là, nous étions à la leçon 5. Apprenez à rester seul avec Dieu. Amen. Voilà, apprenez à rester seul avec Dieu. Et je vous ai dit, savoir entrer en soi-même. Jésus a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Lorsque donc Jésus-Christ parlait d'entrer dans le lieu secret, c'est de cela qu'il parlait. C'est vrai que physiquement, tu peux avoir une chambre où tu peux te retirer, mais c'est beaucoup plus le fait d'entrer dans l'intimité de son cœur qu'il est question dans ce passage. Le fait d'entrer dans l'intimité de son cœur, il dit que c'est là que le Père écoute. Alléluia. Alléluia. Je reprends le passage Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc ton Père est dans quel lieu secret? Est-ce que le lieu secret dont il est question là, c'est ta chambre? Non. Il parle du lieu secret de ton cœur, de là où est l'esprit. La Bible dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Amen. Et vous avez appris par la parole que lorsque Dieu entre dans notre vie, c'est notre esprit qu'il visite. On peut m'afficher Matthieu 6:6 encore. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Si vous comprenez bien le sens, c'est pas qu'il est en train de dire qu'il est dans ta chambre. Amen. Il parle d'un lieu secret. Ce qu'il est en train de dire, c'est de savoir t'isoler. Pendant que tu es en train de célébrer, pendant que tu es en train de danser, tu es en train de louer, la musique est là, c'est de savoir entrer dans le lieu secret. Et c'est là que tu parles à Dieu, qu'il t'écoute, qu'il t'entend et que tes prières montent vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Dans le lieu secret aussi, pour la prière. Donc nous sommes toujours à la leçon 5, savoir prier seul. Alléluia. Aujourd'hui, on va toucher aussi la leçon 6. Alors, la dernière fois, je vous avais donné l'image du tabernacle. Donc la cinquième leçon, apprenez à rester seul avec Dieu. Nombre chapitre 11, verset 16. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation. Dis avec moi la tente d'assignation. Il dit, et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Alléluia. Nous connaissons cette histoire parce que je l'ai enseignée dans les principes de l'ordre intérieur. Amen. Moïse dirigeait le peuple, mais il était fatigué parce que son leadership n'avait pas les effets qu'il attendait, il n'avait pas les effets escomptés. Et à un moment donné, Moïse était épuisé, fatigué. Il dit à Dieu, je ne puis pas à moi tout seul porter le peuple. Il avait des difficultés à transporter ce peuple. Ça peut être comme toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Tu as des difficultés à porter la vie. Les fardeaux sont lourds à porter. Gérer ta famille, gérer ton mari, le mari va gérer sa femme, gérer le travail, gérer le boulot. Ce sont des choses quelquefois qui sont pénibles. Gérer votre vision, gérer ta voiture qui tombe tout le temps en panne. Gérer si tu vas avoir vite le taxi, gérer, vous savez, les fardeaux de la vie rendent la vie vraiment lourde. Jésus a dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on transporte des fardeaux? Vous savez, c'est tous ces fardeaux-là que les hommes transportent, et nous disons, la vie est dure. Si vous avez une bonne vie de prière, selon les 7 secrets que je suis en train de partager avec vous, la vie ne sera plus dure. La vie ne sera pas due. La vie n'est pas due. La vie n'est pas due. La vie n'est pas due. Amen. Moïse disait aussi la même phrase. Il dit, Dieu, la vie est due pour moi. Moi seul, je fais tout. Moi seul, je me retrouve en train de tout gérer. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors Dieu va dire à Moïse ceci. Il dit, choisis 70 anciens de qui leur rendre un bon témoignage. Des gens qui sont bien. Et il va dire avec eux, va avec eux dans la tente d'assignation. Dis avec moi la tente d'assignation. La tente d'assignation. Voilà, la tente d'assignation, c'est le second nom du tabernacle. Soit vous allez voir dans votre Bible, soit c'est appelé, peut-être même dans certaines versions, on a marqué tabernacle, ou bien tente de la rencontre.
Il dit donc,
va avec ces personnes dans la tente d'assignation et prie. Là, je te parlerai. Donc, Dieu parle où? Dieu se révèle où? Où ça? Dans la tente d'assignation. Et il dit, c'est quand tu seras dans la tente d'assignation que je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les autres, sur les 70 personnes. Et je vous avais expliqué ceci. Pour que le monde soit facile, que votre voiture se soumette à vous et vous conduise, que les woro-woro ne vous créent pas de problèmes, que la vie devienne facile. En tout cas, que les choses avancent sans complications bizarres. Amen. Il faut quelque part que votre esprit qui transporte le plan de Dieu pour vous, la volonté de Dieu pour vous, que Dieu le prenne et que Dieu dispose votre environnement, comment dirais-je, assujettisse l'environnement à votre esprit. Est-ce que vous me comprenez? J'ai la vision, je prends un exemple très simple, j'ai la vision aujourd'hui d'aller au boulot et de travailler efficacement. Pendant que je me mets en chemin, les obstacles vont se lever. Par exemple, je suis en chemin, je vais vite au boulot, mon pneu se crève. En fait, plein de circonstances qui interviennent pour me compliquer la vie. Ça me met en retard, ça me pose plein de problèmes. Pourquoi? Parce que le monde a un autre esprit qui s'oppose à moi. Vous me suivez? Donc, quand je rentre dans la prière du matin, on avait enseigné dans la leçon, c'était quelle leçon? Oui, il fallait se lever avant le lever du jour. Quelle est la leçon? Alors, leçon 3, amen. Alléluia. Donc, quand le matin je me lève et que je prie avant le lever du jour, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la prière, je suis en train d'assujettir le monde à la volonté de Dieu en moi. Pour que le chemin soit favorable et que j'accomplisse le plan de Dieu pour ma destinée. Alléluia. Donc, autrement dit, il faut que Dieu prenne l'esprit, mon esprit. Dans l'esprit, il y a la vision. Et puis qu'il les soumette. Mais Dieu ne soumet les esprits à mon esprit que dans la tente d'assignation. Il a dit, il y a 70 personnes. Il n'a pas dit, va prier pour eux dehors. Entre avec eux dans la tente d'assignation. Là, je te parlerai. Ça veut dire, moi, je vais te donner mes recommandations. 1, 2, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur eux. Amen. La tente d'assignation, c'est la cabane qui est au milieu de la cour. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Cette cour-là, Dieu s'est révélé à Moïse, lui demandant de construire cette chose que vous voyez. La cour qu'on appelle le parvis, au milieu là où vous avez l'autel qui est en feu, où il y a une flamme, qu'on appelle l'autel des holocaustes. Après quoi, vous avez la cuve des reins. Et après la cuve des reins, qui est la grande cuvette où il y a de l'eau, vous avez la tente d'assignation. Donc Dieu dit à Moïse, pour que je prenne mon esprit, ton esprit, pardon, pour le donner aux autres, il faut que tu les amènes dans la tente d'assignation, c'est-à-dire que tu traverses la cour, qui est le parvis. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui représente l'état de prière où on est dans la chair. Alléluia. La chair se manifeste. Quand j'ai dit où on loue Dieu, on est dans la chair. Là. Dans le monde spirituel, quand tu rentres en adoration, quand tu rentres en prière, tout programme que tu fais pour rencontrer Dieu, car je vous avais dit que cette bâtisse-là, la maison qu'on appelle tente d'assignation, s'appelle aussi la tente de la rencontre. Rencontrer qui? Rencontrer Dieu. Autrement dit, on ne rencontre pas Dieu dans le parvis. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu ne passes pas par le parvis. Mais Dieu n'habite pas dans le parvis. Autrement dit, si tu veux aller rencontrer, parce que généralement, il n'est pas dans sa cour. Quand tu rentres, tu sonnes cling-clong, on dit entrer. Tu traverses la cour. Mais tu ne peux pas rentrer dans la cour de la présidence et puis tu sors. J'étais entré dans la présence. J'ai rencontré le président Laurent Gbagbo. Non, le président ne se balade pas comme ça dans la cour. C'est quelquefois de temps en temps, mais il ne s'assoit pas. On ne juge pas dans la cour. Quelquefois de temps en temps, le président peut sortir, marcher dans sa cour. Mais il n'habite pas là-bas, il ne dort pas là-bas. Dieu ne dort pas dans le parvis. Ramenez-moi l'image. Dieu ne dort pas dans le parvis. Donc, si tu veux le rencontrer, il dit, arrive-moi dans mon salon. C'est là que je donne des rendez-vous. C'est la même chose. La cour, c'est juste une cour. La cour permet à une personne d'entrer par le portail et de commencer à entrer jusqu'à aller rencontrer le propriétaire de la maison. Mais la plupart des croyants, des chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils veulent, Dieu dit, vous venez me louer. Ils disent oui, ils rentrent dans le parvis. Ils dansent dans le parvis. Alléluia. Après, ils sortent. Ouais, on était dans la présence de Dieu, frère. Tu ne l'as pas rencontré. Dieu t'a donné rendez-vous ce dimanche. Il te dit, passe me voir à la maison. Dimanche. Ou bien à 4h du matin, tu te lèves. Mon fils, ma fille, entre dans ma présence. Toi, tu rentres dans la présence. Dans le monde spirituel, quand tu pries, c'est quand tu rentres dans la cour. Et puis dans la cour, toi seul, tu gesticules. Le monsieur au salon, et puis tu parles dans la cour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux me donner 10 000 francs? La journée est coincée. Dans le nom de Jésus, je sanctifie la journée. Tu es dans la cour, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, j'aplanis les sentiers. On dit que tu es dans le parvis. Toi seul, tu parles. Donc, Dieu est dans le salon du lieu saint. Et puis, il t'observe. Il te voit gesticuler là-bas. Dans le nom de Jésus. Toi seul, tu as fini ta prière de 4h jusqu'à 6h dans le parvis. Et puis, tu ouvres le portail et tu sors. J'ai prié. Tu n'as pas vu Dieu. C'est dans le même parvis. La foule qui était en train de toucher Jésus sans le toucher, là, c'était des gens du parvis. Vous marchez avec le roi de gloire, vous le touchez sans le toucher réellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous me suivez? Donc, on peut prier, on peut toucher Jésus sans le toucher. Tant qu'on le touche au niveau du parvis. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Moïse, amène ces personnes jusque dans la tente d'assignation. C'est là que je vais leur donner ton esprit. Autrement dit, ce n'est que dans la tente d'assignation, lorsque vous rencontrez Dieu, qu'il vous parle. Il dit, je te conduis dans ce lieu, je te parlerai. Et je vais prendre le fardeau que tu as, la vision que tu as, l'esprit que tu as, et je vais le mettre sur le programme. Amen. Alléluia. Et il dit à Moïse, ainsi ta charge sera moins lourde. Ces personnes-là porteront ta charge avec toi. Quand tu as fait une prière comme ça, la journée va commencer à porter ta propre vision. La journée ne portera plus le programme du diable. La journée te sera favorable. Les personnes que tu dois rencontrer pour te faciliter les choses apparaîtront. Rien ne les empêchera de venir. Tu vas aller t'asseoir. Tu avais rendez-vous à tel moment pour retirer un papier. Pendant que tu es simplement en train de faire le rang. Et Dieu voit que si tu passes 4 heures de temps ici dans ces rangs-là, ça va créer un problème au niveau du travail. Pendant que tu es dans le rang, un coup, tous ceux qui étaient dans le rang avant toi, là, ils disent, ils s'en vont. Parce que tu te retrouves là-bas. Et un endroit où tu dois faire 4 heures, tu le trouves en train de faire en moins de 30 minutes. Tu règles un dossier où quelqu'un arrive, il te regarde. Mais c'est mon frère, on est de la même tribu, tu avances en un, non? On n'est pas jamais ensemble. Et vous voyez, et Dieu amène des personnes pour vous faciliter, pour que la journée soit aplanie. Mais Dieu ne peut aplanir véritablement votre journée que si vous entrez dans le lieu saint, dans la tente d'assignation. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Maintenant, demande-moi comment on fait. Donc, vous comprenez que l'image du tabernacle, c'est une vie d'esprit. Amen. C'est une vie d'esprit. C'est un symbole dessiné dans l'Ancien Testament, mais qui est une illustration pour nous permettre de comprendre les différentes étapes qu'une personne traverse pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Alors, comment je peux savoir que je suis encore dans le parvis? Tout à l'heure, avec les illustrations, vous avez senti. Le matin, je me levais à 4h du matin pour faire ma prière. Est-ce qu'on se lève à 4h du matin en ce moment? Qui maintient la prière? Qui a déjà pris une coutume? Quels sont ceux qui sont à 5h? 5h30, qui commencent à 5h30. Et ils n'ont pas trop forcé, quoi, ils commencent petit. 5h30. Quels sont ceux qui sont à 4h? Ok. Les autres, où vous êtes? Et qui a... Ouais. Qui a à 3h? Ouais, soyez bénis. Et vous gardez 3h comme coutume? Ou bien 3h c'est le temps d'inspiration, mais la coutume c'est moins? Parce que je vous ai dit, il y a les moments où vous êtes fort, où vous êtes en plein jour, où l'onction de Dieu est facile. En ce moment-là, si vous pouvez prier à 3h, priez à 3h. Mais donnez-vous comme coutume des horaires que même en période difficile, vous êtes capable de respecter. Ok? Donc si je peux prier jusqu'à, je peux me lever à 3h pendant que je sens la force de prier à 3h, je dois le faire. Amen. C'est une saison qui m'est favorable. Je maximise mes prières à 3h. Si même j'ai la force de faire des veillées seul pendant un moment, maximise. Tu es en train seulement de mettre, de cumuler des trésors dans ton grenier. Ok? Quand la nuit arrive, au moins ta coutume peut te ramener à prier à partir de 5h30, de 5h du matin. Voilà. Donc, il y a la coutume, quelque chose que je ne peux pas perdre. Et puis, il y a les moments exceptionnels où je peux faire de prier toute une nuit, faire des jeûnes assez spéciaux, tout ça. Alléluia. Alléluia. Ok. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on me suit bien? Donc, 4h du matin, je me réveille. Je veux adorer. Il peut arriver que le matin, quand je me lève, il y a une telle présence de Dieu, ça arrive. On ne sait pas pourquoi. Là, c'est Dieu. Ça veut dire c'est comme si l'Esprit de Dieu vient directement t'accueillir dans le parvis. Il arrive, non? Que quelquefois, quand tu veux recevoir quelqu'un à la maison, tu ne l'attends pas au salon. Donc, il arrive. Quand en entrant dans le parvis, vous rencontrez même Dieu qui est déjà là. Il vous prend par la main et il vous conduit jusqu'au lieu saint. Mais il vient vous accueillir à la porte. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas souvent. Ça, c'est dès que vous rentrez en prière, vous êtes déjà connecté. Ok? Mais le plus souvent, ce qui est le plus commun, c'est que dès qu'on rentre en prière, on n'est pas très concentré. Ça, c'est le plus fréquent. Ou bien le matin, quand tu te lèves à 4 heures, tu dois te battre avec le sommeil. Donc, la lutte avec le sommeil, là, c'est la lutte du parvis du matin. Donc, j'arrive. Père, ce matin, je vais entrer dans ta présence. Tu te réveilles à 3 heures, non? Dans ta présence. Tu te réveilles 3h20. Père, fortifie-moi ce matin. Fortifie-moi. Tu te lèves, tu marches un peu. Mais le sommeil te prend tellement, tu vas t'asseoir. Père, tu te réveilles 3h45. À qui ça arrive? Moi aussi, moi aussi. Voilà, donc, dans ce cas-là, il est très difficile de quitter la prière du parvis. Si tu peux, tu peux rester jusqu'à 5h du matin en train de lutter ta chair. Le matin arrive, tu n'as rien dit. Ok, mais je vous ai dit, ce n'est pas grave, tu dois maintenir ça à tout prix jusqu'à ce que ça devienne une coutume. Si la veille, je n'ai pas pu prier, j'ai prié en somnolence, ce n'est pas grave. Après demain, j'essaye encore. J'essaye jusqu'à ce que mon corps s'y habitue. Je dois persévérer jusqu'à ce que mon corps comprenne que c'est une règle. Je ne me décourage jamais. Je n'ai pas pu prier la veille. Ce n'est pas grave. J'essaierai demain encore. J'essaierai encore demain. Parce que je suis en train de me donner une éducation. Amen. Mais par contre, avant l'éducation, il faut que quand même mes moments soient intimes. Maintenant, voilà ce que la Bible dit. Psaume 100, verset 4. Il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Je vous donne des stratégies du parvis. Comment on quitte le parvis? Le matin, quand tu rentres en prière, la vraie prière que tu vas faire, qui sera la leçon qui vient, tu la fais dans le lieu saint. Quand tu as fini de traverser le parvis, avant cela, tu te prédisposes. Amen. Première des choses, une des premières stratégies, quand tu lèves à 4 heures, c'est de rentrer dans les parvis, comme le psaume 100, verset 4 dit, avec la louange et la célébration et des pas de danse. Le matin, quand tu te lèves trop tôt, commence par danser, toi seul, sans musique. Danse pour la gloire de Dieu, tu prends comme ça. Moi, mon chant préféré le matin, c'est gloire, gloire à Jésus, il est la lumière, le salut promis. C'est un chant de très longtemps. Alors, je vous assure, je vais m'arrêter moi sur le pied, je commence quoi. Mais, sans musique, je danse même sérieux. C'est-à-dire, je danse. Je loue Dieu. La louange vous fait traverser plus facilement le parvis. Pendant que vous célébrez, à un moment donné, mais tu sais que ton esprit doit se connecter. Donc, au début, c'est la musique, ou bien avec des cris. Seigneur, je veux te louer. Je n'ai pas dit de crier dans la maison. Il ne faut pas réveiller tes parents. Amen. Alors là, vous célébrez et vous chantez dans votre cœur. Vous bougez. La Bible dit de louer Dieu avec des pas de danse. Faites un mouvement. Ou bien, tu ne peux pas, commence d'abord même par prendre ta douche. Tu rentres sous la douche, parce que de toute façon, tu vas te laver pour sortir. Tu rentres sous la douche et tu commences à chanter des cantiques de louange avant d'entrer dans la prière profonde. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Comme tu es dans le parvis, que tu es dans une zone distraite, tu fais quelque chose qui va te réveiller. Tu fais quelque chose qui va te réveiller parce que tu es en train de traverser le parvis. Quand ta chair n'est pas réveillée, là, si tu veux, tu veux te concentrer, pendant que ta chair a sommeil, elle va couper ta chair va couper ta prière. Comprenez, non? Je vous ai dit, le but n'est pas de prier dans la chair. Mais de toute façon, la chair est avec toi. Tu es obligé de passer par le parvis, par la chair, pour atteindre l'esprit. Donc, en ce moment-là, tu composes avec ta chair. Tu la soumets par la louange, tu la réveilles. Tu es sous la douche en train de chanter. Donc, tu chantes des cantiques et tu commences à marcher en célébrant, en dansant. Alléluia. Et tu vas voir que, à un moment donné, tu commences à te connecter. Tu commences à ne plus entendre les bruits du dehors. Le sommeil est parti. Alléluia. Pendant que tu es en train de louer, de célébrer Dieu, maintenant tu vois ces différentes étapes du parvis. On a l'autel des holocaustes qu'on a montré, et puis la cuve des reins. Amen. L'autel des holocaustes, c'est la partie où vous approchez du Seigneur, où vous... C'est là qu'on faisait le sacrifice pour le pardon des péchés. Donc tout en célébrant, en louant Dieu, vous pouvez demander dans votre moment de réveil, Seigneur, vraiment pardonne mes faiblesses, mes manquements, sanctifie-moi. Amen. Je viens à toi, je te célèbre. Donc vous chantez des chants qui parlent de votre engagement avec le Seigneur, de votre consécration à Dieu. Amen. Vous allez évoluer. Tout ça là, c'est dans votre chair, hein, dans votre chambre. Vous allez évoluer. Et puis à un moment donné, vous arrivez à la cuve des reins. La cuve des reins, c'est là que vous entrez maintenant. Vous allez entrer dans la prière au niveau de l'âme. Là où il y a la cuvette avec l'eau. La cuve des reins, dans le livre de Exode, je crois, 18, si je me trompe, la Bible dit que cette grande cuvette était faite avec des miroirs. À l'époque, les miroirs n'étaient pas en verre. À l'époque, les miroirs, c'était du cuivre poli. Voilà. Donc, quand vous arrivez à la cuve des reins, vous vous voyez comme dans un miroir. C'est à ce niveau-là, dans la prière, que vous soumettez votre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Que vous dites, Seigneur, vraiment, que vous commencez à vous disposer pour dire, je ne dois pas me baser sur une prière émotionnelle, mais je dois chercher à entendre sa voix, à écouter ses paroles. Amen. Donc, retenez ceci. L'esprit fonctionne avec les paroles. L'âme sont les mélodies, les choses douces ou bien les bonnes nouvelles qui encouragent l'âme. La chair, en louange, c'est le rite. Des choses comme ça qui l'encouragent. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi, il fait comme ça. Ok. Donc, on a vu déjà les différentes étapes pour être seul à seul avec Dieu. Amen. Et à un moment donné, à force de louer, de célébrer, ça va dépendre des périodes. Il y a des fois, vous allez être très vite connecté. Il y a des fois, la connexion sera plus lente. C'est le réseau. Ok? Voilà. Parce que le parvis, là, comme vous l'avez remarqué, il donne accès à l'extérieur. C'est-à-dire, le vent, la pluie, le soleil frappent dans le parvis. Donc, votre connexion est souvent liée à l'état de votre corps physique ou bien à votre état d'âme. Si vous arrivez dans la prière, que vous êtes déjà angoissé par une situation, il vous est très difficile de vous connecter. Donc, vous allez voir que vous passez plus de temps dans le parvis. Par exemple, vous venez de perdre quelqu'un qui vous est cher, ou bien vous venez de perdre un boulot. Vous allez voir que entre la cuve des reins et puis rentrer dans le lieu saint, ça va prendre un peu plus de temps. Le réseau est saturé d'émotions fortes. C'est à la cuve des reins qu'on traite les émotions. C'est à l'autel des holocaustes qu'on traite la chair. Est-ce que vous me suivez? Mais tout ça là, c'est un esprit. C'est dans votre être intérieur. Amen. Amen. Il y a deux fois, c'est rapide. Il y a certaines fois, c'est lent. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous décourager. Le jour où Jésus était à Gethsémané, les démons s'étaient acharnés. C'était très difficile pour Jésus de se concentrer. Vous n'avez pas remarqué ça? Jésus a dit à ses disciples, c'est l'heure des ténèbres. C'est très difficile. Et lui-même Jésus, il priait de manière déconnectée. Il prie un peu, il arrête, il va y parler. Il prie un peu parce qu'il y a des moments comme ça. Si vous passez par des moments comme ça, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que hier tu as prié et tu t'es vite connecté. Aujourd'hui tu as prié, tu n'es pas vite connecté que tu as un problème. Amen. Alors quand tu sens ça, si tu sens que la connexion ne vient pas rapidement, demande à Dieu, est-ce qu'il y a un péché, tu te repens. Tout ça sur l'autel des holocaustes. Tu sens que la connexion ne vient pas, tu vas à l'autel des holocaustes, tu repens. Si ça perdure, prends autorité contre les démons. Chasse-les dans le nom de Jésus. Dégage l'atmosphère de ta chambre. Si ce sont les démons qui saturent les réseaux du parvis, tu vas voir que ton ciel va se dégager. Juste après les avoir chassés, tu vas rentrer dans la tente d'assignation en prière. Amen. Alléluia. Donc vous avez différents obstacles. Vous avez votre chair qui peut s'opposer à vous dans le parvis par le sommeil, par la fatigue, par la faim, par toutes sortes de choses charnelles. Triomphez de cela. Vous avez l'âme qui va vous empêcher d'entrer en esprit par les émotions fortes, par les situations troubles, les choses qui vous font mal. Restez à la cuve des reins. Nettoyez-vous. Dites, Seigneur, ce que j'ai vécu là, ça me fait mal, mais je soumets ma volonté à ta volonté. La cuve des reins, c'est l'endroit où on renonce au moi. Amen. Je soumets ma volonté à ta volonté. C'est vrai, je viens de perdre 10 millions. Ça me fait mal. À cause de ça, j'ai même pas envie de te parler. J'ai même pas envie de prier. Mais je soumets ma volonté à ta volonté. Ça, c'est la cuve des reins. Tu apaises ton âme afin de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir l'écouter. Quelqu'un est-il avec moi? Vous voyez, là, je vous ai parlé seulement de savoir entrer dans le lieu saint. Quand vous entrez dans le lieu saint de la prière, ça, c'est le lieu du seul à seul avec Dieu. Vous voyez, à la gauche, quand vous avez passé toutes les étapes de distraction que je viens de citer, vous traversez, quand vous entrez dans le lieu saint, spirituellement parlant, vous avez le chandelier d'or là, qui est à gauche, qui porte les lampes. Tout ça, c'est dans votre tête intérieure. C'est là la chambre secrète. La chambre secrète. Le lieu secret dont il parle, en Matthieu 6:6, c'est là que vous êtes. Et en ce moment-là, vous allez voir que l'Esprit de Dieu peut vous conduire. Sur la droite, vous avez une table qu'on appelle la table de pain de proposition. Là-dessus, on avait mis du pain, qui est le symbole de la parole de Dieu. Et au fond, vous avez l'autel des parfums. Amen. Alléluia. Je ne veux pas entrer en profondeur là-dessus, mais seulement c'est dans le lieu saint qu'il y a la parole, que Dieu te parle. C'est dans le lieu saint que tu reçois le Saint-Esprit par les sept chandeliers. Là. La lampe à sept chandeliers. Que tu reçois l'onction divine pour affronter ta journée, pour aller accomplir le plan de Dieu. Dans le parvis, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. C'est dans le lieu saint que tu reçois le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, là on a fini avec cette leçon du seul à seul avec Dieu. De toute façon, si vous regardez votre vie, il y a tout le temps des moments où vous êtes entendu que vous êtes connecté dans la prière. Il y a des moments où vous êtes distrait. Ne dites pas parce que je suis distrait aujourd'hui dans la prière, je vais arrêter de prier. Demain, j'espère être plus concentré. Il faut vous battre. Il faut apprendre à vaincre la distraction. La distraction de vos âmes, de vos émotions, de vos sentiments. Et la distraction de la chair et briser les œuvres des ténèbres. Il faut vous exercer à cela. Amen. Comme je l'ai dit, retenez. Il y a des fois où ce sera facile, il y a des fois où ce sera un peu plus compliqué. Mais peu importe. Amen. Et je finis avec ceci pour aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? J'arrive dans le lieu saint, ou bien je veux, comment est-ce qu'on prie concrètement? Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'environnement de la prière. Comment, pour que la prière soit efficace, comment est-ce que je dois prier? On a vu qu'il fallait prier avec ferveur, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Jésus, quand les disciples ont posé la question à Jésus de savoir comment est-ce qu'on doit prier, Jésus leur a enseigné des paroles. Luc chapitre 11, verset 2. Luc 11, 2. Il leur dit, ça veut dire Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, voilà ce que vous devez dire. Ça veut dire quoi cette parole? Que, contrairement à ce qu'on dit souvent, on ne dit pas tout ce qu'on veut dans la prière. Il y a des choses à dire. Et s'il y a des choses à dire, ça signifie aussi qu'il y a des choses aussi à ne pas dire. Amen. Dans la prière, on ne raconte pas n'importe quoi. Les paroles sont précises. Alléluia. Et c'est là qu'on va apprendre donc la fameuse prière de notre Père. Mais le dire qu'a dit Jésus, ce n'est pas répéter forcément mot pour mot. N'oublie pas que la prière se fait en esprit et que l'esprit pèse le sens des mots. Qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Amen. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voilà ce que Jésus-Christ enseigne. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Est-ce qu'on peut faire la prière ensemble? 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Alors là, nous sommes à la leçon 6. Marquez leçon 6. La progression d'une prière efficace. Leçon 6. Ou comment progresser dans la prière de manière efficace. Leçon 6. La progression d'une prière efficace. Donc la prière qu'on appelle la prière du Notre Père se décompose de plusieurs choses que Jésus nous a demandé de dire. Nous avons appris avec la leçon 5 dans la solitude, dans le seul à seul avec Dieu, que nous devons prier jusqu'à entrer dans le lieu secret qui est notre esprit. Ou encore, le lieu secret commence par le lieu saint et englobe aussi le lieu très saint. Amen. Donc, il ne s'agit pas pour nous de répéter les choses mécaniquement, mais d'en sentir le sens. Jésus dit ceci. Dans la première progression de la prière, notre Père, dis avec moi notre Père. Notre Père. Notre Père. C'est très important. Israël avant considérait Dieu seulement comme un créateur. Dieu dit, quand tu t'approches de moi, pour nous les enfants du royaume, on doit venir avec cette notion que Dieu est notre papa. Dis avec moi mon Père. Tu sais, mon frère, la façon dont tu t'approches de Dieu, l'image que tu as de Dieu, va déterminer les choses que tu vas obtenir ou pas. Et si tu ne t'approches pas de Dieu avec la notion de notre Père, toute ta prière risque d'être faussée. Parce qu'il y a différentes manières de prier. La Bible dit que Dieu est notre Père. Mais il y a beaucoup de personnes qui se considèrent seulement comme des esclaves de Dieu. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi? Un serviteur qui arrive dans la maison pour entrer dans ta chambre, il va taper, il va prendre certaines mesures, n'est-ce pas? D'ailleurs, même, il rentre même pas même. Et puis, il te parle à la porte. N'est-ce pas? Un fils, il arrive, même s'il tape, ou bien ton fils, il fait quoi? Et puis, il rentre. Et puis, de la manière dont ton fils te demande de l'argent, et puis le serviteur te demande de l'argent, il y a une différence, non? L'enfant, lorsqu'il te demande, il sait que tu peux dire non. Mais il y a le fait que tu es son papa ou tu es sa mère, il y a une façon de demander qui est différente d'un simple serviteur. Si vous venez dans la prière et vous considérez Dieu comme vous êtes un pauvre pécheur misérable, esclave, vous allez très mal prier. La prière efficace commence par notre Père. Dis avec moi, mon Père. C'est pas mon patron. Ça commence, papa. Alléluia. Alléluia. Ça commence par mon père, papa. Et c'est là la dernière fois quand le pasteur Paul David était venu nous raconter l'histoire et je reviens là-dessus. Il y avait un homme qui avait deux fils. Et un de ses fils était un homme très riche. Un de ses fils est venu le voir pour dire, papa, donne-moi la part de mon héritage. La Bible dit que le père a partagé l'héritage. Le plus jeune est parti dilapider ses biens dans la débauche, dans la prostitution, dans toutes sortes de choses négatives. Le plus âgé est resté à la maison. Quelque temps après, le plus jeune, après avoir subi toute forme de galère, est revenu à la maison. Il dit, mais Chez mon père même, les esclaves, ils mangent mieux que moi. Il s'est donc levé et il est reparti. Lorsqu'il est arrivé, il a vu son père et dit, papa, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Son père l'a reçu, je saute le détail, son père l'a reçu avec beaucoup de joie. Il a tué le veau gras et ils en ont mangé. Le grand frère qui était au champ, il arrive plus tard et quand il arrive, il dit, mais pourquoi il y a la fête dans la maison? On dit, non, ton petit frère est revenu. Il dit, c'est pour lui là, en quelque sorte, je paraphrase, pour ce va-nu-pied, pour ce bon à rien, que papa tue le meilleur veau de la maison. Et il s'est fâché, il est resté dehors. Son père est parti le voir, il dit, mais pourquoi tu fais cela? Il dit, mais moi je suis ici, je t'ai servi fidèlement. Et depuis tant d'années, malgré ma fidélité, tu ne m'as rien donné. Mon jeune frère, qui a dilapidé ton argent, pour lui tu sacrifies le veau. Voici la réponse du papa. Mais mon fils, ce qui m'appartient, t'appartient? Le veau là, si tu veux, tu peux le tuer pour manger. Amen. Donc, quelle est l'histoire? La leçon à tirer, c'est que le fils est né. Il était fils, mais dans son esprit, il était esclave. Il avait donc une manière de prier qui n'était pas le Notre Père. Notre Père, c'est quelque chose qui est dans votre cœur. C'est une façon particulière de vous approcher de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez vous rapprocher par manque de respect, parce qu'un papa, un père, on le respecte. Un père, on l'honore. Mais un serviteur honore le père parce qu'il atteint un salaire. Un fils honore le père parce que c'est son père. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous allons continuer là-dessus. C'est très important de saisir la notion du Notre Père. Après, le Seigneur va dire ceci. Qui est aux cieux? Wow, là, c'est très important aussi. Comprendre que Dieu est au ciel. Si tu pries, il dit, quand tu m'appelles, dis papa, toi qui es au ciel, lorsque tu arrives à avoir la vision de Dieu au ciel, franchement, tu vas regarder les petits problèmes de la terre là comme insignifiants. Et je vous ai raconté l'histoire de David contre Goliath. Les hommes voyaient un géant. Quand David a regardé Goliath, il a vu un grand Dieu. Dieu est au ciel. Il dit, quand tu pries, il faut savoir que je ne suis pas sur la terre. Ça veut dire, on dit, il y a la crise en Côte d'Ivoire, non? Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas lié à ça. Je suis dans le ciel. Ton patron ne veut pas te donner ton salaire? Non. Je ne suis pas influencé par ça. Je ne suis pas sur la terre. Je suis au ciel. Papa, toi qui es dans le ciel. Si c'était papa, toi qui es sur la terre. Ça veut dire que la terre, il a un problème avec la terre. S'il y a la tempête, lui aussi la tempête l'atteint. S'il y a des problèmes, les problèmes aussi l'atteignent. Mais il dit, quand tu pries, faut te souvenir que je ne suis pas sur la terre. Je suis au ciel. Je regarde tout de haut comme ça. Et puis je vois, tout est petit, petit. Ton patron que tu as l'impression qu'il va t'arrêter, qu'il va détruire ta vie. Là. Il n'est pas demain. Ton avenir dépend de moi. Je dis, quand tu rentres en prière, dis, papa, toi qui es au ciel. Quand tu finis de voir ton père au ciel et tu regardes ton patron qui te fatigue, tu le vois petit comme ça. Ça te donne une certaine assurance dans la prière. Si tu ne commences pas ta prière avec notre Père qui est aux cieux, pas en répétant mot pour mot, mais dans ton esprit, sentir le poids de chaque mot, tu vas rater cette prière. Si tu fais ça dans la prière, au parvis, tu fais récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Ah, c'est une prière du parvis, ça ne marche pas. Mais quand tu arrives dans le lieu saint, papa, waouh, tu es au ciel. Alors quand tu vois que dans le ciel, et puis tu l'amènes le pain quotidien, c'est insignifiant pour lui. Mais quand tu passes ton temps à observer la galère de la terre, et quand tu vois comment toi-même tu souffres, ne serait-ce que pour avoir 10 000 francs, alors quand tu viens même demander 10 000 francs à Dieu, toi-même ton cœur bat. Papa, 10 000 francs. Toi-même tu as peur que le montant l'effraie. Oh, c'est toi que le montant l'effraie. Mon loyer est coincé. Il me faut 100 000 francs. Parce que toi qui es sur la terre, 100 000 francs c'est beaucoup pour toi. Donc tu penses que c'est beaucoup aussi pour lui. Non, il est au ciel. Il est au ciel. Tant que vous n'êtes pas dans le lieu saint, vous ne pesez pas ces mots. Vous priez comme ça. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous.
Et puis, on dit tu as fait la prière, oui. On dit fais ça quatre fois. Mais on fait ça comment? On dit fais ça sept fois.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne.
Ne provoquez pas Dieu.
Ce qu'elle avait. Prends le temps, chaque mot. C'est pourquoi il dit quand on venait devant le Père, ne multipliez pas de vaines paroles.
C'est quoi une vaine parole? C'est une parole qui n'a pas de poids.
La parole doit être pesée, pensée, réfléchie avant de la prononcer.
La prière du Notre Père, quand tu commences, tu peux passer 5 heures de temps, tu n'as même pas fini de faire cette prière.
Parce que quand tu t'assois seulement sur le Notre Père, tu peux dormir avec ça, t'es réveillé. Papa. Tu penses que c'est ton papa.
Alors tu remarques la relation que ton père n'a pas pu avoir avec lui. Et lui, c'est ton papa. Il est celui qui te comble de toute affection. Il est ton papa. C'est pas ton papa qui doit t'habiller. Tu dis, c'est mon papa. Qui habille l'enfant? Le père. Tout ça, c'est notre père. On n'a même pas encore dit que ton règne vienne.
Donc quand tu as prononcé le mot papa,
en même temps, tu vois, c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui t'habille.
Il est ton père. Quel père va laisser son enfant? Ce n'est pas un père inconscient. Donc quand tu dis notre père, papa,
et tu t'assois là-dessus, en même temps, tu penses. Ton papa est multimilliardaire, c'est ton papa.
Ton papa, papa.
Alors quand tu vas et que tu commences à pleurer pour une chemise, c'est un manque de foi. Ça veut dire quoi? Tu te crois comme un esclave qui demande à son patron, est-ce que je peux avoir une chemise? Quand tu commences à venir comme le père, tu comprends que les choses comme la nourriture et le vêtement, ce sont des choses qu'on ne demande pas, on les prend. Parce que c'est le devoir du père. Quand tu vas rentrer dans la dimension, tu ne vas plus jamais prier même pour tes vêtements. Ça ne se fait même pas. Tu lui expliques simplement que tu as une fête demain et que tu voulais tes... Tu lui dis, hé papa, tu sais, demain, il y a la fête de la tribu là. Et puis tu décris avec lui le vêtement. Est-ce que ça va te plaire ce que j'ai porté? Ton papa va te dire, ma fille, ton habit l'endresse est un peu trop sexy, il faut changer. Hey, le vieux toi aussi, tu es un peu compliqué. Hein? Bon d'accord, ok. Comme ça ne te plaît pas, tu es papa. Ok. Et puis tu définis l'habit. Et tu te lèves et tu vas au travail. On t'appelle au téléphone. Ma soeur, je ne sais pas, passe me voir à mon atelier de couture. Et tu t'en vas. J'ai eu à cœur de te coudre un vêtement. Tu prends ta tenue, dimanche tu es habillé. Dieu est capable, Dieu est votre Père. C'est lui qui vous habille, c'est lui qui vous nourrit. Quand notre Père... Ce soir on va aller. Il ne faut même pas beaucoup prier. Réveille-toi à 4h du matin. Et puis reste sur notre Père. Ne cherche pas à dire qui est au ciel. Laisse qui est au ciel là-bas. Dis, papa, réalise. Pense ce qui doit être un père. Ce qui doit être. Et puis c'est à lui que tu parles. Papa. Ce que tes parents n'ont pas pu être, lui il est là. Et puis tu dis papa. Jusqu'à ce que tu sentes. Dans le lieu saint, tu rencontres ton père pour parler. Petit cellulaire, tu veux lui demander là, ton papa ne peut pas t'offrir un cellulaire. Tu es en train de déjeuner et prier, il me faut un cellulaire. Il y a des choses pour lesquelles on ne jeûne pas. Le jeûne et prière là, c'est quand tu rencontres ton père et que tu dois le convaincre que tu as un projet qui est intéressant. Vous comprenez, non? Il y a des rendez-vous, tu parles avec papa. Tu dis, papa, je veux te convaincre que aller dans telle école, c'est bien pour moi. Papa dit, non, moi je préfère l'autre école. Et vous discutez. C'est ça qu'on appelle chercher avec Dieu. Mais il y a des choses évidentes. Ta nourriture, ton vêtement, ton logement. Ce n'est pas de ton devoir, c'est le devoir du Père. Ça fait partie de ses devoirs, c'est pas toi. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, priez avec notre Père. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Merci, mon Dieu. Disons simplement notre Père. Papa. Mon Dieu, mon papa. Toi, tu es mon papa. Prends le temps. Il ne faut pas le dire dans le parvis. Si tu dis papa dans le parvis, ça serait un papa charnel. Si tu dis un papa charnel, Jésus va s'arrêter au ciel. Dieu va s'arrêter au ciel. Il va dire, s'il y a une seule personne qui dit cela, il va dire, quelqu'un m'a appelé. On va dire, mais nous tous on t'appelle papa ici. Il va dire, non. Il y a une personne qui a prononcé le vrai papa. Pas un papa du parvis, mais un papa dans ma maison. Un papa d'une fille, un papa d'un fils. J'ai entendu mon fils m'appeler papa.
lorsque vous priez, dites mon père, dites papa. Réalisez que je suis votre père. Quel père donnera un serpent à son fils s'il lui demande un poisson? Si vous, les hommes méchants comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas agir ainsi envers vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu. Moi Dieu. Est-ce que ta prière ne manque pas d'efficacité parce que tu viens vers moi comme quelqu'un, un serviteur qui cherche un mérite, qui cherche un mérite, un avantage? Un esclave s'approche du père, s'approche du chef en disant, j'ai fait ce que tu m'as dit, donne-moi mon salaire. Quelqu'un qui prie sans considérer Dieu comme son père est une personne qui s'approche du père et qui vient d'abord avec ses œuvres. Hier j'ai évangélisé, hier j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait du bien aux pauvres. Et cette personne prononce papa, mais en réalité elle est en train de dire, maître, je t'ai servi fidèlement, donne-moi en retour le mariage, donne-moi en retour ceci, donne-moi en retour cela. Un serviteur cherche un salaire. Un fils ne parle pas en termes de salaire et de récompense. Un fils a juste besoin quelquefois des autorisations du papa. Mais il sait que les choses lui appartiennent. Mais que papa est celui qui gère la maison et qu'il doit avoir son autorisation pour les prendre. Un esclave recherche un mérite. Il se dit que c'est sa fidélité qui va lui donner accès à l'intimité du père. Tandis qu'un fils, il n'achète pas l'intimité de papa. Parce qu'il est fils, il a droit à entrer dans la chambre. À même se coucher sur le lit de papa et de maman. Un serviteur ne se couchera jamais dans le lit. Ton fils, ta fille peut venir se coucher avec toi dans ton lit. Pas ta bonne, pas ton boy. Si dans ton esprit tu es boy, tu es bonne, tu vas jamais pouvoir te coucher dans le lit. Tu vas croire que entrer dans cette présence, entrer même dans la chambre de ton maître, c'est un mérite. Quand tu es serviteur, que tu rentres dans la chambre, du coup tu te sens supérieur aux autres. Tu leur dis, vous, le patron ne vous donne pas accès à son intimité. Moi, le patron me permet même d'entrer dans sa chambre. Ceux qui pensent que l'onction qu'ils ont, la présence qu'ils ont est un mérite, prient toujours comme des esclaves. Mais ceux qui considèrent simplement que c'est un fait, en tant que fils, ils ont accès à la chambre, ils ont accès à tout dans la maison. Ils ont besoin certes d'autorisation pour les choses que papa n'a pas encore données. Mais c'est juste parce que papa n'a pas encore donné. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos yeux. Et nous savons que tu es notre Père dans le puissant et précieux nom de Jésus.
Je viens vers toi, ô Père. Oh,
Seigneur, ma prière ce soir, c'est que tu nous amènes vraiment à saisir que tu es notre papa. Dès l'instant où nous t'avons donné notre cœur, où nous sommes passés par la nouvelle naissance, tu nous dis ceci: à ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir d'être, de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants, Seigneur. Donne-nous à ce que ce ne soit plus des mots prononcés du bout des lèvres, mais des mots que nous prononçons parce que nous le sentons réellement. C'est toi qui nous as dit de nous approcher de toi en disant: Papa, notre Père. Ô Père, ouvre nos yeux afin de réaliser ces choses. C'est souvent si difficile pour nous de saisir ces vérités simples. Tellement nous avons été éduqués à ce que tu es loin de nous. Seigneur, merci parce que ce soir, tu ouvres notre intelligence dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. On va acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.